Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de la commune de Fouan. Four, petite commune de moins de 1500 habitants, fait également partie de la CAPI. Son maire, Jean Papanopoulos, en est d'ailleurs l'actuel président. Elle a pour caractéristique d'avoir fait partie du noyau de communes regroupées dans ce qui s'est appelé la ville nouvelle de l'île d'Abo et qui est à la base de la création de la CAPI. Petite par sa population, elle n'en couvre pas moins de près de 12 km² avec une belle étendue de bois et de forêts, ainsi qu'un grand territoire réservé à l'agriculture. Ceci sera développé par M. le maire dans son intervention. La vie locale y est dynamique, basée sur de nombreuses associations que compte le village. On y retrouve un salon du chocolat, un important salon d'artisanat d'art et deux grandes brocantes. La fête religieuse de la Saint-Blaise, qui se déroule chaque année au mois de février, est une tradition liée à l'histoire locale. Tout au long de cette émission, nous allons découvrir la vie communale de Four, son histoire, ses associations marquantes et son activité économique. Je suis avec M. Papadopoulos, qui est le maire de Four. Et première question que je vais poser, qui êtes-vous, M. Papadopoulos? Est-ce que vous êtes maire de Four depuis longtemps? Je crois qu'il y a eu une petite interruption dans votre fonction de maire.
Oui, bonjour monsieur. Donc effectivement, je suis maire de Four. J'ai été élu la première fois maire en 1995. J'ai fait mon premier mandat donc de 1995 à 2001. Ensuite, en 2001, pour des raisons professionnelles, je ne me suis pas représenté. Et en 2008, je me suis représenté. Et depuis, je suis élu. J'étais donc maire de 95 à 2001, maire de Four et vice-président du SAN à l'époque, syndicat d'agglomération de la ville nouvelle. Et puis à partir de 2008, la CAPI s'étant constituée, j'étais maire de Four et vice-président de la CAPI de 2008 donc à 2014, et depuis 2014, je suis président de la CAPI.
Donc vous avez parlé que vous aviez arrêté en 2001 pour des raisons professionnelles. Vous avez un métier qui est une profession libérale, je crois. Et comment vous arrivez à faire fonctionner, je dirais, cette profession libérale, conserver peut-être une clientèle avec votre fonction publique, puisque maintenant président de la CAPI, ça doit vous prendre beaucoup de temps?
Oui, effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Pour autant, les choses s'organisent, c'est-à-dire que je continue à exercer en tant que vétérinaire et j'ai diminué mon temps de présence sur la clinique nécessairement, mais je conserve cette présence à la clinique qui me semble très importante, c'est-à-dire que je continue à travailler, je continue à bien connaître et ressentir les problématiques des entreprises, et c'est par ce biais-là que, les comprenant mieux, peut-être je peux arriver à fournir des réponses un petit peu plus précises à leurs préoccupations de la vie de tous les jours. Effectivement, mon emploi du temps est bien plein, et il faut arriver à jongler entre la vie, on va dire, la vie publique d'élu et la vie professionnelle de vétérinaire, et j'ai des associés qui sont très indulgents dans ce domaine, et c'est la raison pour laquelle je parviens à combiner l'un et l'autre.
Donc on va parler un petit peu de la commune de Four, qui est, je crois, une commune de taille moyenne au niveau de la CAPI, petite moyenne, on va dire. Est-ce qu'elle a elle aura 1500 habitants, est-ce qu'elle a des perspectives de développement, cette commune, ou est-ce que la stabilisation de la population est une des perspectives?
Effectivement, Four est une des petites communes de la CAPI, et elle a une histoire un petit peu particulière, parce que Four est la plus petite commune de l'ancien SAN, syndicat d'agglomération nouvelle, de la ville nouvelle. Et donc, Four, depuis que je suis élu, et même bien avant, depuis la création, est une commune qui n'a connu que l'intercommunalité. Et c'est la seule, dans ce cas-là, à l'échelle de la CAPI. Nous n'atteignons pas en ce moment les 1500 habitants, bien que la progression ait été très rapide ces 7-8 dernières années, dans la mesure où il y a eu une ZAC, zone d'aménagement concertée, que l'État nous a imposée sur la commune et qui a fait grandir la commune de façon plus rapide qu'on va dire le fil de l'eau habituel d'une commune de la même strate. Nous aurions eu, si nous avions continué en tant que commune, on va dire plus standard, à peu près 10 permis à 12 permis de construire par an. Dans le cadre de la ZAC, nous avons acquis, on va dire en 5-6 ans, 185 logements complémentaires. Donc, vous voyez que la proportion n'est pas du tout la même. Mais tout ça s'est fort bien passé parce que ça a été échelonné dans le temps. Et c'est bien cet échelonnement qui a permis l'intégration des nouveaux venus avec une bonne réussite. Et nous accueillons régulièrement les nouveaux venus sur la commune, une fois tous les 7-8 mois, en fonction du nombre. Et toutes ces personnes se rencontrent, permettent des rencontres avec des élus, avec d'autres personnes par le biais d'associations. Et l'intégration se fait extrêmement, extrêmement bien et est extrêmement profitable pour cette vie du village que nous avons la chance de pouvoir conserver. C'est une proximité avec l'ensemble de la population à laquelle je suis très attaché.
Le territoire de la commune, c'est une commune qui est considérée comme commune rurale, où vous avez beaucoup de terres cultivables, même si beaucoup d'agriculteurs ont maintenant des doubles métiers, on va dire.
La commune fait 1182 hectares en surface et a sur son territoire à peu près 28-30% de bois. Vous voyez la taille occupée au sol physiquement par les zones urbanisées, le centre-bourg dans lequel nous nous trouvons, les hameaux qui existent et qui sont peu nombreux par rapport à d'autres communes. Nous en avons des hameaux, il y en a 4 ou 5 principaux, mais ils occupent des places qui sont petites, à part le hameau d'Aïa qui est le plus grand. Donc, pour répondre à la question terres agricoles, si vous enlevez 30% de bois et la surface urbanisée, il vous reste donc de très grandes surfaces agricoles et donc Four peut revendiquer sa position de village rural à laquelle je suis très attaché et je le suis, et c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai été élu la première fois en 1995, à une époque où les choses étaient un peu compliquées, les relations étaient un peu compliquées avec l'État qui vous expliquait ce qui était bien pour chaque commune et particulièrement ici, et qui avait des velléités d'urbanisation intensive dans des secteurs nord en particulier de la commune, entre à cheval sur Vaumilieu et Four, avec des velléités d'urbaniser par exemple 200 hectares. Donc vous imaginez la proportion et le nombre d'habitants que nous serions si toutefois ça avait été possible.
Écoutez, merci monsieur le maire. Nous avons continué notre recherche des caractéristiques de Four avec différentes associations et différents acteurs économiques. L'histoire de Four remonte à l'époque gallo-romaine, puisque la voie romaine qui allait de Vienne à Aoste traversait la commune. Plus tard, Four était rattaché au marquisat de Maubec et de ce fait a donc été sous l'influence des ducs de Savoie. De la petite seigneurie de l'époque, il ne reste que quelques vestiges d'une maison forte. L'association Recherche et Sauvegarde de nos histoires locales existe depuis 30 ans. Elle a déjà à son actif 2 ouvrages sur l'histoire de la commune et un projet de créer un support pour permettre aux nouveaux, mais aussi aux anciens habitants de la commune, de découvrir le patrimoine et l'histoire locale. Denise Dupont en est la présidente. Je suis à Four avec l'association qui s'appelle Recherche et Sauvegarde de notre histoire locale. Et je suis avec eux dans une réunion de leur assemblée. Et je vais laisser la parole à monsieur Jean-Paul Gauchon, qui est un des membres de cette association. Quel est le but de votre association? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? À partir de quoi vous avez créé cette association et vous avez travaillé?
Notre association a été créée au siècle dernier à partir d'un livre d'histoire créé par deux anciens instituteurs en 1936. Un petit fascicule avait été publié au profit du Sceau des écoles qui racontait l'histoire de notre commune. À partir de ce fascicule, on était un certain nombre à penser qu'il y avait depuis 1936 beaucoup d'autres choses à raconter. Donc ce premier livre a été réalisé en l'an 2000 ou un peu plus, en 2001 je crois, livre qui a eu un très gros succès puisqu'on l'a vendu un peu plus de 700 exemplaires. Nous avons fait un deuxième petit livre plus spécialisé sur les conscrits qui permettait de regrouper toutes les photos qu'on avait à cette époque sur les conscrits. Voilà, et depuis, eh bien, on travaille sur un nouveau projet qui est de promouvoir l'histoire en arpentant les sentiers, les chemins de la commune, en mettant en avant le patrimoine, la découverte de la faune, de la flore, et puis en se remémorant l'histoire du village.
Donc voilà, ça c'est déjà un beau programme pour l'association. Maintenant, il y a l'histoire de Four en tant que commune. Elle est habitée depuis très très longtemps par l'homme. Quelles sont un petit peu les grandes étapes? Je crois qu'il y a eu des étapes gallo-romaines. Après, il y a eu des étapes, on va dire, moyenâgeuses. Et puis, une vie un peu plus actuelle.
Oui, donc Four doit exister depuis de très nombreuses années, puisque nous sommes sur la voie gallo-romaine donc, qui vient d'Aoste jusqu'à Vienne. On peut trouver encore quelques pièces romaines dans les champs. Autrement, pour la suite, au niveau du Moyen-Âge, il reste une maison forte qu'on appelle à Four, connue sous le nom du château. Il reste une tour avec un bel escalier en colimaçon. Malheureusement, cette maison forte est privée et on ne peut pas la visiter. Depuis, eh bien, beaucoup d'eau ont coulé dans nos ruisseaux, nos nombreux ruisseaux de la commune. Il y a le Galoubier et l'Aïa qui prennent leur source à Four, hein, et le ruisseau de la Tuyère aussi.
Est-ce qu'il y a eu des événements à Four pendant la Révolution française, par exemple, puisqu'il y avait un château, il était peut-être occupé?
Des événements au cours de la Révolution française, je ne pense pas. Que notre maison forte dépendait du marquisat de Maubec. Parmi les anecdotes dans l'histoire locale, on avait noté qu'il y avait un seigneur de Four qui avait quelques problèmes avec la religion et qui avait démoli une croix près de la maison forte. On n'a jamais retrouvé quelle était cette croix d'ailleurs.
Le marquisat de Maubec, ça veut dire que c'était quelque chose qui était lié à la famille, la puissante famille du coin qui étaient les Boxhozelles. Et les Boxhozelles, je crois qu'ils avaient fait allégeance au duc de Savoie à l'époque.
Oui, je crois que c'est vrai, oui, parmi les nombreuses familles féodales.
On cite le nom des Boxhozelles, mais tant de plus près, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes connues localement, régionalement, qui ont séjourné ou qui sont passées ou qui sont natives de Four?
Oui, ben on a quelques fourrois célèbres à Four, qu'on a d'ailleurs dans notre livre paru en 2000 relaté. On a Frédéric Dard, qui est venu chez sa grand-mère à Four, qui habitait le hameau d'Aïa. Et plus tard, son grand copain Henri Rovelin. Il y a eu d'autres personnages célèbres qui ont habité à Four. Il y avait notamment le peintre Fernand Rovelin, dont son père était originaire de Four. On a eu un navigateur à Four là qui était embarqué pour la mini transat sur l'Atlantique. Là. Malheureusement, il a eu quelques soucis et il a péri en mer pendant la mise au point de son bateau. Et son bateau, malgré tout, a traversé l'Atlantique puisque un skipper pour le remplacer et il avait mené à bon port son beau bateau qui avait été construit à Four.
Ah d'accord, il y avait un chantier naval à Four alors?
Il y avait un chantier naval à Four, exactement, oui, au hameau d'Aïa.
Ah, je crois qu'on est en train de trouver d'autres personnages un peu connus dans la région de Four, qui sont natifs de Four. Donc, petite parenthèse, j'entends parler du nom de Rovelin, c'est un nom qui est très connu à Four. Hein.
Oui, alors Rovelin à Four, il aurait pour origine le nom de, ça voudrait dire, défricheur de forêt, l'origine du nom Rovelin. Et après, pour les différencier au niveau des différentes familles, on a rajouté Falcoz, Claire, il y a même eu des Barbus, ils ont disparu, il n'y a plus de famille Barbu. Ben, il y en a peut-être encore, mais il y a aussi Pialet, oui, qu'on retrouve plus sur vos milieux, mais originaire de Four. Hein.
Four est une commune où il y a beaucoup de bois et de forêt.
Eh oui, il y a pratiquement le quart de la commune qui est couverte par les forêts. Oui. D'ailleurs, on parlait de la Révolution tout à l'heure. Dans l'histoire de la commune, il est raconté qu'il y a beaucoup de chênes qui avaient été abattus pour construire les flottes de notre marine navale.
Mesdames et messieurs, donc moi je vais vous remercier de m'avoir accueilli et puis de m'avoir consacré du temps. Bonne continuation et puis bon succès pour le prochain livre. Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Maintenant, nous avons le plaisir d'écouter Barbara qui nous chante Göttingen. Il existe une version allemande et une version française. Nous écoutons ici la version française.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Four est riche de plus de 20 associations. Comme dans les communes du Nord-Isère, on y retrouve un soudé-école, une FNACA ou l'association de chasse ACCA. Et du côté sportif, le foot, le basket ou la randonnée qui sont des associations dynamiques. Le site internet de la commune permet d'avoir les coordonnées de toutes celles-ci et les noms de leurs dirigeants. Nous en avons rencontré 3 en complément de l'association qui nous a parlé de l'histoire de la commune. Elles ont attiré notre attention par leur particularité. Le Kyudo est un art martial japonais. C'est du tir à l'arc avec des règles particulières. Denis Beaujon nous précise les modalités et les origines de cette pratique peu connue. Le comité des fêtes, présidé par Philippe Dupuis, qui, entre autres manifestations, propose 2 grandes braderies et, chaque mois de novembre depuis 8 ans, un salon de chocolat en collaboration avec les artisans chocolatiers du Nord-Isère. Et je crois qu'il y a d'autres projets aussi qui sont évoqués. Le comité de jumelage, présidé par Martin Dizière, qui, depuis 2013, entretient des liens amicaux avec le petit village de Pusiano, en Italie. Four accueille également, depuis une trentaine d'années, un important salon d'artisanat d'art avec de 30 à 40 exposants, Articad, organisé par l'association Créart, qui n'est pas domiciliée à Four, mais qui rayonne sur tout le Nord-Isère. Chaque mois de décembre, un important rendez-vous pour préparer ses cadeaux de fin d'année. Four possède également un comité de jumelage. Martin Dizière en est le président, depuis le début peut-être ?
Non, pas depuis le début, là depuis 2 ans seulement.
Comment est née l'idée du jumelage à Four ? Parce que je crois que ce jumelage est assez récent.
Oui, donc c'est un jumelage qui a été signé en 2013, mais ça a été une idée au départ du maire avec quelques fourrois en 2010-2011, et c'est vrai qu'il a fallu 2-3 années pour que ça se concrétise avec un jumelage avec le petit village de Pusiano dans le nord de l'Italie.
Et le choix du village de Pusiano, il a été fait comment ? D'abord le choix de l'Italie et ensuite le choix du village.
Au début, on s'est orienté, notre recherche était assez ouverte, hein. On partait, il y avait des fourrois qui avaient des liens avec l'Espagne, d'autres avec l'Allemagne, d'autres avec l'Italie. Et on avait trouvé un petit village dans la Galice, en Espagne. Par contre, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop éloigné pour faire vraiment des échanges réguliers entre habitants. Donc petit à petit, on s'est rapproché de Four et quelque part, d'une façon un peu naturelle, on a réussi à trouver un village dans le nord d'Italie à 3-4 heures de route. Et là, on s'est dit, bon, c'était une bonne occasion. En plus, c'est un village qui est à peine plus grand que Four, mais à peu près de la même taille. On doit être sur 1300 habitants.
Et vous avez été guidé par des associations pour le choix du village, comme l'INIS, par exemple, qui est très, très présente dans le Nord-Isère.
Alors l'INIS, on les a rencontrés par la suite. Ils nous ont aidés pour d'autres choses. Mais en fait, on a trouvé le village grâce à un site qui s'appelle twinning.org, qui est un site de l'Union européenne, qui aide tous les villages, toutes les communes de l'Union européenne à mettre en place des jumelages.
Donc, parlez-nous un petit peu de Pusiano. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, comme caractéristique, ce village ?
Pouziano, c'est un petit village qui a un très grand lac, donc c'est un village touristique, c'est le lac des Promessis Posi. Il y a à la fois des montagnes et donc ce plan d'eau. Ils sont le siège de l'équipe nationale de kayak de lac plan d'eau et ils ont un palais, le palais Beauharnais, qui est un monument historique dans le qui avait été construit pour un fils illégitime de Napoléon.
Oui, c'est vrai que Napoléon, il a fait beaucoup de choses. Et vos échanges sont des échanges de quelle nature ? Est-ce que ce sont des échanges de famille, des échanges d'associations, des échanges sportifs ? Comment ça se passe ?
Alors, les échanges sont maintenant à peu près assez réguliers, dans le sens où il y a une année où nous allons les rencontrer, et l'autre année, c'est eux qui viennent. Et ce sont des échanges, pour l'instant, beaucoup entre comités de jumelage, famille adulte, on va dire, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'échanges de famille à famille. Et on a aussi initié des rencontres sportives entre nos clubs de foot respectifs. Donc, les Fourrois sont allés jouer à la fête du sport du village en 2015. Et l'an dernier, les Pouzianésés, les Italiens, sont venus faire la revanche ici à Four.
Et qui a gagné ?
Malheureusement, ce sont à chaque fois les Italiens, mais là, on s'entraîne et notre club de foot de Four est très bien coaché. Ils vont gagner, c'est sûr.
J'en doute pas. Hein. Donc, à côté de ça, je crois que vous faites aussi des cours d'italien. Ça se passe comment, ces cours d'italien ?
Oui, donc ça c'est grâce à l'INIS. Donc le comité de jumelage a organisé des cours d'italien pour adultes. Donc on a un professeur, un bénévole de l'INIS qui vient pour donner ses cours. Donc c'est tous les 15 jours, les jeudis soirs. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient inscrites. Et en plus de ça, l'INIS a aidé la mairie pour les TAP, les activités périscolaires, pour donner des cours d'italien aux enfants. Alors c'est de l'initiation, mais ça a l'intérêt en fait d'ouvrir les enfants à une culture étrangère qui soit différente de l'anglais. L'anglais c'est essentiel, c'est super pour parler. Par contre, de s'ouvrir aussi à cette culture italienne un peu plus chantée, leur permet d'être de construire une Europe, qui est un peu le but de notre comité de jumelage, hein, une Europe de personnes, de conviviales, où les gens se rencontrent, où on mange ensemble, où on fait la fête.
C'est un jumelage qui est sur les rails maintenant, qui roule bien. Est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors, pour l'instant, le projet principal, c'est vraiment de renforcer les liens qu'on peut avoir entre les deux villages. On en est, il marche bien, mais pour l'instant, on est quand même au début, on va dire, de l'aventure, même si ça fait 5 ans. On aimerait bien pouvoir renforcer les liens entre les enfants, donc entre les écoles, ce qui est quand même, ce qui prend du temps, ce qui peut être un peu compliqué, mais qui est plein d'avenir, parce que si on arrive à faire que les familles se tissent des liens d'amitié, petit à petit, quelque part, ça permettra de pérenniser le jumelage et de faire que l'amitié italo-française soit durable.
Une petite boutade, il y a un maire de Bourgoin qui s'appelait Pierre Oudot. Il expliquait que pour lui, un jumelage réussi, c'est un pléonasme que j'ai fait, c'est quand il y avait un ou deux mariages.
Ah oui, on n'en est pas encore là, mais bon, on espère aussi.
D'accord, ben merci. Et puis donc, bonne continuation à ce jumelage et ces échanges avec Pouziano. Je suis avec Denis Beaujon, qui est le président de l'association de Kyudo, qui est de l'arc japonais. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique ce que c'est.
Alors le Kyudo, comme son nom l'indique, Kyu veut dire arc et Do et représente la voix, comme dans tous les arts martiaux. C'est un art martial traditionnel japonais, très ancien. Il était enseigné aux samouraïs au même titre que le sabre ou tous les types d'armes qu'ils pouvaient utiliser. Aujourd'hui, c'est devenu plus une voie de réalisation qui nous permet de nous connaître mieux et travailler sur nous-mêmes.
Trouver une association de Kyudo à Four, c'est un peu original. Pourquoi finalement cette association à Four ?
Pourquoi à Four ? Simplement parce que j'habite à Four, je pense, et que j'avais envie avec deux de mes collègues de faire passer un message, enfin en tout cas de transmettre ce que j'avais appris de mon maître, enfin du dojo d'où je viens, qui était à Villeurbanne. Comme je suis arrivé à Four, le Kyudo s'est installé à Four. Mais nous avons un autre site aussi sur Communet, en fait, l'association est sur deux sites, Four et Communet.
Quel est votre cheminement pour arriver à cette pratique ?
Ah, c'est toujours un cheminement un peu tortueux, on va dire. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai vu un reportage à la télé qui montrait des vieux sensei japonais dans un dojo et qui tiraient dans des beaux kimonos avec des arcs immenses. En voyant ce reportage, j'ai vraiment été saisi.
Quand même une pratique et un art martial qui est relativement peu connu en France. Il y a combien de participants sur le Hexagone et combien de clubs à peu près qui sont organisés ?
Alors en club, il doit y avoir une cinquantaine, peut-être 60, je ne sais pas exactement, qui regroupe en tout en France. Aujourd'hui, 600 participants. C'est une discipline qui est assez peu connue en France et en Occident. On est quand même le deuxième pays à avoir le plus de participants, puisque le premier, c'est l'Allemagne, en tout cas en Europe. Hein. Et sinon, c'est bien sûr le Japon.
Il y a des compétitions qui sont organisées. Est-ce qu'il y a des spectateurs ? Est-ce que des gens peuvent venir vous voir pratiquer votre art martial ?
Alors, il n'y a pas de problème pour vous venir voir une séance d'entraînement. C'est vraiment libre et ouvert. Hein. C'est même assez intéressant. Il y a effectivement des tournois qui sont organisés avec une coupe de ligue et ensuite une coupe de France chaque année. Et il y a également une coupe du monde qui est tous les 4 ans, comme toutes les coupes du monde, qui a débuté il y a assez peu de temps puisqu'il a fallu la constitution de la Fédération mondiale de Kyudo qui a organisé la première coupe du monde au Japon et qui a été remportée par les Français. Qui ont dû organiser la deuxième coupe à Paris en 2012.
Qui a été remportée par qui, là ?
Qui a été remportée par les Japonais, bien sûr.
C'est un échange de bons procédés, alors. Au point de vue matériel, donc, ce sont des arcs, des flèches et des cibles. Est-ce qu'il a des particularités, ce matériel ?
Alors oui, bien sûr, c'est du matériel qu'on trouve uniquement au Japon. Il y a deux sortes d'arcs. Il y a des arcs en bambou traditionnel et des arcs en fibre de verre. Ce sont des arcs assez grands. Ils ont une particularité, c'est d'être asymétriques, c'est-à-dire que la poignée n'est pas au centre de l'arc. La branche supérieure est deux fois plus grande que la branche inférieure. Et ils ont aussi une autre particularité, c'est d'être asymétriques dans l'axe. Tout ça pour arriver à, lorsqu'on lâche la flèche, l'arc tourne autour de la main. Et la différence avec l'arc occidental également, c'est que la flèche se trouve à l'extérieur de l'arc. Ensuite, il y a les flèches, bien sûr. Les flèches sont en bambou ou en acier, hein. C'est du matériel qui coûte assez cher parce que chaque flèche est faite à la main et redressée et équilibrée en fonction de la puissance de l'arc. Le gant a un pouce dur avec une encoche à la base du pouce qui permet de tenir la corde pour ouvrir l'arc. C'est ce qu'on appelle la prise mongole. Les Mongols avaient, eux, simplement un anneau autour du pouce. Sinon, il y a une tenue traditionnelle qui est l'akama avec un kekogi en haut, noir et blanc. Ou alors, dans les cérémonies un peu plus importantes, on porte aussi le kimono.
Est-ce que, comme dans d'autres arts martiaux, vous avez des niveaux ?
Chaque année, en Europe, est organisé un stage de passage de grade. Donc, c'est le même principe que les ceintures. On commence en général tout à fait au premier dan, donc le dan jusqu'au cinquième.
Si des gens sont intéressés par votre art martial, comment les gens peuvent venir vous voir ? Est-ce qu'il y a des moyens pour qu'ils s'initient ?
Alors, ils peuvent venir tout à fait. Il suffit d'aller sur Internet et taper kyudo.fr et on se retrouve sur le site de la fédération où on va retrouver tous les clubs de la région. Et puis après, vous contactez ce club. Chez nous, en tout cas, c'est le mercredi à partir de 20h.
Et ça se passe où ?
Alors, ça se passe où ? Ça se passe à Four, dans la salle polyvalente.
Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent venir voir et se rendre compte et peut-être susciter des vocations.
Je voudrais juste dire qu'il y a aussi chaque année un stage d'initiation qui est organisé par la Fédération française et qui se tient au dojo de Taikanjoji qui se trouve à Saint-Laurent-du-Pape. C'est le dojo de la Falaise Verte. Donc si vous êtes intéressé, allez sur le site de la Falaise Verte et vous verrez ce stage. Je crois qu'il est aux alentours du mois d'août. Il dure une petite semaine et c'est vraiment un stage d'initiation intéressant.
Au niveau des distances entre la cible et puis l'arc, quelle est la distance habituelle ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de distances avec plusieurs types de précisions sans doute ?
Alors il y a plusieurs façons de tirer. Il y a le tir d'entraînement où on peut s'entraîner sur ce qu'on appelle une makiwara, c'est une botte de paille hein, qui est placée assez proche de soi. Et c'est vraiment le moment pour apprendre le geste et sans se soucier de ce que va devenir la flèche. Ensuite, dans les dojos traditionnels, on tire à 28 mètres exactement. Et sinon, on peut tirer aussi de temps en temps à l'extérieur des tirs Nteki qui sont des tirs à 60 mètres. où la posture est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on, à la fin, on oriente un peu sa flèche vers le haut pour pouvoir tirer à la distance de 60 mètres. Il y a une belle fête qui se passe au Japon au moment de la Golden Week dans le temple du Sanju Sangendo où on fait des tirs à 60 mètres et tout le monde est habillé dans des beaux kimonos et c'est très, très beau à voir.
C'est la précision pour des tirs à 60 mètres, c'est déjà quelque chose.
Déjà à 28 mètres, c'est déjà pas mal.
Merci et puis bonne continuation, donc que ce club grandisse. Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. Inutile de présenter Claude Nougaro. Le voici avec Nougat York.
Je plonge, j'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère, j'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai gueulé comme un âne. Au secours, je me noie. Personne n'a bronché, ne m'a tendu de rames, de coquilles de noix. Alors tant mieux, tant pis, j'ai appris à nager, puisque c'était mon rôle. Certains requins m'ont dit, on va pas te manger, mais travaille ton crawl. Ce sera plus prudent. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Et depuis me voilà, le bouillon sur le dos, et buvant cet amer. Buvant ici et là, trois grandes tasses d'eau pour un petit bol d'air. Ouch. Il y a des sirènes, quelquefois elles m'entraînent vers des fonds irisés. Ouch. Dans leurs bras je bascule, mais pareils à des bulles s'envolent nos baisers. Ouch. De nouveau je m'enfuis. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Nageant dans un fauteuil, des poissons argentés me croisent sur ma route. Ils me jettent un sale œil quand ils voient arriver mes cheveux sur leur soupe. À quoi ça sert ce bain? Surveille-t-on mon style? Je me mouille, pourquoi? Me tendra-t-on la main sur un rivage d'île en me disant, c'est toi, on t'attend des fistons. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie. Plongé dans la mer. Splash.
Je suis avec Philippe Dupuis, qui est le président du comité des fêtes de Four. Le comité des fêtes de Four a plusieurs rôles dans la vie communale. Il a un rôle au niveau de prêt de matériel, d'aide à des associations, et puis il anime aussi des manifestations qui lui sont propres. Monsieur Dupuis, le comité des fêtes a du matériel, et ce matériel est prêté aux autres associations. Comment ça se passe? Sous quelles conditions vous prêtez ce matériel aux associations?
On prête le matériel aux associations en fonction de leurs besoins. Quand ils ont une manifestation, on a en responsable du matériel, qui est Michel Vauden, qui lui enregistre les demandes et ensuite, après, il y a un rendez-vous qui est fixé pour la prise du matériel et également le retour.
Dans le retour du matériel, il y a quand même un contrôle parce que quelquefois, il peut revenir pas toujours en très bon état. Vous avez des cautions ou vous faites simplement payer les dégradations éventuelles?
Exactement. Il n'y a aucune caution demandée. Les associations savent très bien que c'est nous qui investissons dans le matériel, c'est nous qui l'entretenons. Donc s'il y a de la casse, ils doivent nous le signaler et ils doivent faire en sorte de soit nous le remplacer, soit on le remplace nous, on le répare et ils nous dédommagent.
Dans une autre fonction du comité des fêtes, vous avez de l'aide à la création d'associations.
Tout à fait. On essaye d'aider lorsqu'il y a une création d'une nouvelle association.
Ensuite, vous avez vos propres manifestations. Donc, il y en a un certain nombre. Une très grosse brocante à Fours qui, effectivement, est organisée par le comité des fêtes.
Et là, on a besoin d'une centaine de bénévoles pour organiser cette journée-là.
Une autre manifestation importante, c'est à la découverte du chocolat et des autres produits du terroir. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis 8 ans en collaboration avec les chocolatiers Norisère.
Il y a environ 16 stands par an. Je pense qu'il y a 8 ans, il y en avait moins. Chaque année, il y a un peu plus de demandes. Concernant l'activité, le matin de 10h à midi, les pâtissiers organisent pour les enfants un atelier fabrication dans lequel ils leur font faire un petit peu manuellement monter des objets en chocolat. Et ensuite, les enfants repartent avec. Et l'après-midi, les chocolatiers nous font une démonstration de leur savoir-faire, de leur art, et en créant des structures en chocolat et en sucre, voire quelquefois, on a même eu une démonstration sur des pains de glace de la part de Monsieur Violet, chocolatier de Bourgoin.
Il y a du vin, ça me fait rebondir sur une autre activité qui est proposée par le comité des fêtes, c'est une section œnologie.
C'est la 7e saison cette année où on organise des cours avec 2 sommeliers, des cours sur le vin. Chaque année, un programme différent est proposé. Ça se passe une fois par mois, c'est à partir d'octobre jusqu'à avril ou mai.
Vous avez remis au goût du jour quelque chose qui existait il y a quelques années, ce sont les rallyes surprises.
On a recréé ça l'année passée, c'est quelque chose qui se faisait auparavant. On a fait, je dirais, une tentative l'année passée qui a bien fonctionné. Il me semble qu'il y a eu une petite vingtaine de familles qui a participé. Donc c'était quand on dit famille, c'était des groupes de participants de 4 à 5 personnes. Donc ça représente je crois qu'il y avait entre 80 et 100 participants l'année dernière. C'est sur la base d'un parcours sur lequel il faut se déplacer effectivement en voiture. Sur 3 villages essentiellement, donc la base est Fours, avec une coupure à midi où tout le monde se retrouve et où on installe de quoi faire un pique-nique général.
Donc c'est quelque chose qui est prévu à nouveau pour 2017.
Oui, puisque ça a bien fonctionné, c'est en cours. Ça va être relancé cette année, certainement le premier week-end de juillet.
Dernière chose que fait le comité des fêtes, c'est lui qui est l'organisateur du forum des associations.
Oui, en début de saison, sur le plan scolaire, on démarre avec le forum des associations. On essaye d'avoir toutes les associations de Fours. Plus, on fait intervenir quelques associations, comme le judo par exemple, qu'on n'a pas à Fours. Donc, on essaye de demander à nos communes voisines de participer.
Et pour tout ça, il y a combien de membres au comité des fêtes ?
On est une vingtaine, ça fait des années qu'on est, on tourne autour de 20 personnes. Il y a la partie membre bureau, et puis après il y a toute la partie membre actif sur lesquels on a fait une distribution. Il y a par exemple Michel Vauden, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est responsable du matériel. Il y a aussi des gens qui sont plus amenés également à s'occuper du matériel, mais par rapport à une association.
Vous travaillez un petit peu par commission et par responsable de commission en fonction du matériel, de l'aide aux associations et en fonction des manifestations que vous organisez. Vous avez donc des gens qui se sentent un peu responsables, soit responsables de commission, soit responsables d'une activité en fonction, je dirais, de leur penchant naturel, quoi.
Oui, je crois. Il y a des choses qui se sont faites naturellement et c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne ou deux qui vont driver plus une manifestation et puis une autre manifestation, ça va être une ou deux personnes. La partie brocante, c'est pareil, ça va être une personne qui va s'occuper de la partie réservation et qui va mettre en place l'organisation. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est assez unis. Naturellement, il y a des personnes qui vont davantage piloter une manifestation. Je pense au Salon du Chocolat où Valérie Doyen pilote un peu plus cette manifestation. Après, sur les autres manifestations, il y a d'autres pilotes, d'autres gens qui drivent l'organisation. Et puis, il y a les autres membres qui sont toujours omniprésents pour suivre et qui apportent leur présence, leur soutien.
Ok, bah écoutez, moi je vous remercie, c'est une petite association sympathique et je vous souhaite de bien continuer.
Simplement, on a quelques difficultés à renouveler l'effectif. On s'aperçoit que les associations, c'est pas propre à la nôtre, mais les associations ont un peu du mal à regarnir, j'allais dire, les équipes. Donc, si cette émission pouvait aider et faire prendre conscience aux personnes qui habitent notre village, qu'on a besoin de bras, on a besoin également de nouvelles personnes, parce que des nouvelles idées, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu un appel à la population.
Vous avez les mêmes problèmes que beaucoup d'associations, c'est-à-dire que les membres vieillissent et que quelquefois, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent pour les remplacer. Je crois que ça, c'est un phénomène assez courant dans les associations. Donc on va enregistrer l'appel. L'entreprise la plus importante de Four, les établissements Berlioz, emploie une cinquantaine de salariés. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité participer à cette émission. Le reste est un important tissu commercial, artisanal et agricole, avec de nombreux doubles actifs dans le monde agricole. Deux entreprises de battage sont implantées sur la commune, Gilles Saunier et Cédric Margaron. C'est ce dernier que nous avons rencontré. Côté élevage, notre choix s'est porté sur l'élevage de bêtes destinées à la boucherie de Franck Porcher. Pour représenter les petites structures artisanales, nous avons rencontré Franck Revelin-Falcoz avec son entreprise de terrassement. C'est aussi une vieille famille de Four où le nom de Revelin, accolé à un complément, est très répandu. Franck Revelin-Falcoz, vous êtes entrepreneur à Four et vous êtes aussi une vieille famille de Four. Hein. Je crois que des Revelin, il y a des Falcoz, il y en a d'autres. Et déjà, parlez-moi un peu de votre nom.
Mon nom, Revelin Falcoz. Si on parle en latin, c'était des Revlum Falc, je crois, à l'époque. Ça remonte à très très vieux. Donc Revlum Falc, les Revelins, c'était plus des défricheurs. Ils ont défriché aux périodes des rois, il me semble bien. Hein. Et puis un petit peu, de toute façon, ça a continué comme ça, notre famille. Elle a été perpétuée, comme ça.
Et un peu terrassement VRD, finalement, c'est du défrichage aussi.
Finalement, voilà, on continue. Finalement, on continue à perpétuer.
D'accord. Votre activité, finalement, c'est une activité de terrassement, VRD, travaux publics.
Oui, tout à fait. Oui, c'est du VRD, du terrassement de villa, surtout, du terrassement de petits bâtiments industriels. Et puis après, tout ce qui va avec. Donc les VRD, c'est les réseaux enterrés pour les branchements des maisons. Et les voiries, qui sont aussi dans notre domaine, sur de la bordure, sur de l'enrobé, sur un petit peu aussi d'abord autour des maisons pour embellir un peu tout ça.
Est-ce que vous avez une clientèle au niveau des marchés publics? Donc vous avez parlé de villas, donc ce sont des maîtres d'œuvre.
La clientèle, c'est plus, on va dire, particulier au départ, puisqu'on est quand même artisan, donc on sait répondre à un particulier en termes de professionnalisme. Après, un petit peu de marché public quand on peut. Et après, du constructeur aussi pour tenir la cadence et faire arriver le boulot. Et après, un petit peu d'architecte, un petit peu de tout.
Vous êtes installé à votre compte depuis quand ?
J'ai créé cette entreprise en septembre 91, qui fait quelques années maintenant, 26 ans. Hein, c'est la 26e année, ouais. 26e année que je suis à mon compte.
Elle est plus que majeure, hein ?
Oui, elle est plus que majeure, oui, c'est vrai.
Et vous êtes seul ou vous avez du personnel?
Alors au niveau du personnel, je travaille avec trois employés sur le terrain qui m'aident sur les engins, sur les camions, sur la pose de tuyaux, sur le manuel. Et j'ai une secrétaire deux jours par semaine à la maison aussi, au bureau.
Et vos employés sont des gens qui sont habilités à conduire les engins ou ce sont simplement des aides derrière?
Non, ils sont habilités, bien sûr, qu'ils sont habilités à conduire les engins. J'ai deux chauffeurs expérimentés, plus un aide, un jeune, qui prend ses responsabilités et qui va devenir aussi conducteur d'engin plus tard. Ça se fait naturellement.
Et maintenant, les CACES, c'est assez complet.
Les CACES, la complexité d'un CACES, non, c'est pas très complet. Nous, on fait passer le CACES quand on juge que la personne est apte à pouvoir conduire un engin en toute sécurité tout seul. Après, faire passer un CACES à des gens inexpérimentés, ça reste très dangereux.
Je comprends. Et donc, au niveau matériel, vous avez donc du matériel, vous avez des pelles, des tractos, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Camion aussi, vous avez dit.
Alors, au niveau matériel, j'ai, on va dire, une dizaine d'engins, tout confondu, entre les pelles, tractos, bulles, mini-pelle, petit engin d'hiver. Et après, j'ai une dizaine de cartes grises au niveau des camions, remorques et fourgons.
Oui, parce qu'il y a les engins pour les transporter. Il faut le camion plus le porte-char souvent.
Bah, tout à fait, oui. Il nous faut un petit peu emmener les machines sur les chantiers et puis surtout aussi faire l'approvisionnement de nos chantiers.
Parce que vos chantiers se déroulent dans quel rayon d'action à peu près à partir de Four?
Donc, mon rayon d'action, 25 km autour de Four, dans le normal, et quelquefois bien plus loin, sur des chantiers exceptionnels ou sur des arrangements que j'ai avec certains clients qui me suivent régulièrement. Donc, je veux bien aller leur faire des chantiers très loin, quoi.
Bon, bah écoutez, je vous remercie de ces petits détails sur votre activité et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous et ben écoutez, bonne continuation aussi.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM. La kora est une guitare luth très répandue en Afrique de l'Ouest. Nous allons écouter ici un des maîtres de cet instrument, le malien Bakalé Sissoko. Thank you. Je suis avec monsieur Cédric Margaron qui est entrepreneur de battage. Donc il a 5 belles machines autour de lui. Là, il est en train de faire de la maintenance, d'après ce que je comprends. Il va vous présenter un petit peu son activité, comment vous travaillez, où vous travaillez et qu'est-ce que vous battez.
Je suis entreprise de battage. Je moissonne beaucoup sur des secteurs John Ross, Pusignan, Saint-Quentin, puis de notre région un petit peu aussi. Je moissonne beaucoup d'orge, de blé, colza, tournesol, un peu de soja et puis pas mal de maïs en irrigué.
Là, vous êtes seul en train de faire votre entretien. Donc la saison de battage, on va dire qu'elle commence autour de la mi-juin pour se terminer en mois d'octobre à peu près, entre les différentes céréales et autres produits à ramasser. Là, vous êtes seul, mais quand vous tournez et que vous faites du battage, je pense que vous employez d'autres personnes.
Oui, j'ai 8 chauffeurs saisonniers que j'embauche pratiquement toutes les années. C'est les mêmes qui reviennent à peu près.
Donc 8 chauffeurs saisonniers, ça veut dire que les gens tournent parce que vous avez des jolis phares sur vos machines, donc c'est-à-dire que ça tourne le jour et la nuit là.
Oui, on tourne un peu. Si l'année est bonne, on tourne pas trop les nuits, ça dépend s'il y a pas de les météos sont bonnes, mais on a souvent un véhicule devant la machine pour la convoyer par la route. C'est pour ça qu'on est souvent 2 par machine.
Oui, et en plus, il faut enlever la barre qu'il y a devant.
Ouais, mais ça bon, c'est assez facile maintenant avec les technologies de maintenant, ça va très bien. Et puis on a les caméras derrière pour reculer, on a tout, c'est plutôt pour la voiture qu'on est deux.
Donc caméra, donc ça veut dire aussi qu'avant les gens ils respiraient de la poussière en pagaille et maintenant c'est plutôt climatisé, non?
Ah oui, maintenant c'est vrai que dans les cabines on est très bien, on a la clim, on a tout, et c'est vrai que sans poussière c'est agréable.
Je dirais pas que c'est confortable, mais c'est quand même beaucoup mieux.
Ah, on peut même presque dire confortable maintenant.
Et le reste de l'année, donc vous entretenez votre matériel, ça je pense que c'est un travail, pour avoir du matériel qui tombe pas en panne au bon moment, il faut l'entretenir.
Oui, je fais une grosse partie de l'hiver à l'entretenir, à les révisions. J'essaie de tout faire tout seul, de jamais l'emmener au garage. Et je vais travailler un petit peu à côté chez mon frère en saisonnier, moi aussi, l'hiver.
Donc là, c'est plutôt de l'agriculture.
Voilà, en agriculture. Et puis au printemps, parce qu'il fait beaucoup de maïs de semences, des trucs comme ça, qu'il y a beaucoup de boulot pour planter.
Quand même, le maïs de semences, ça veut dire que c'est du maïs qui est ensilé après derrière.
Non, c'est des maïs pour refaire des maïs l'année prochaine. Il y a des femelles, des mâles, on plante en plusieurs fois, c'est pour ça Il y a beaucoup de boulot, disons, pour y semer.
Ah oui, ça lui permet de refaire pour la semence l'année suivante, quoi.
Oui, mais pour lui, pour une coopérative. Hein. Il travaille ça pour une coopérative, et après, c'est tout retraité dans les coopératives, dans des séchoirs, pour se ramasser en fusée, pour y dégrainer, pour faire les semences de maïs l'année d'après.
Ici, dans le coin, la coopérative s'appelle la coopérative agricole dauphinoise, quoi.
C'est la dauphinoise, c'est dans le coin, beaucoup, qui font les maïs de semences par ici.
Écoutez, je suis tombé un peu comme ça, par hasard, sur vous, mais ravi, et puis je vous souhaite de bien continuer votre travail. Merci. Donc je vais noter votre adresse mail parce que je vous enverrai un petit mail pour vous dire quand est-ce que ça passe et comment ça passe.
Ok, pas de souci.
Franck Porcher, donc vous avez une exploitation agricole et vous êtes éleveur. Vous pouvez dire quel type d'élevage vous faites?
Je suis en vache allaitante et céréales en bio depuis 2010. Vache allaitante, j'ai du charolais, j'ai de la salaire, de l'aubrac et des taureaux limousins.
Vache allaitante ou vache de boucherie?
Vaches allaitantes, elles font naître, elles élèvent leurs veaux, et les veaux, je les vends quand ils ont presque un an.
Et vous les vendez, vous arrivez à les vendre assez bien? Vous avez des marchés, un marché particulier?
Non, c'est un négociant qui vient de Savoie, qui m'achète les veaux régulièrement chaque année, dès qu'ils sont bons à partir, quoi. Et puis lui, il les revend soit pour la filière bio, ou soit pour l'étranger.
Qu'est-ce que ça vous impose d'être en bio?
Beaucoup plus de contraintes au point de vue cahier des charges, parce que il faut respecter le bien-être animal, il faut respecter le temps qu'on consacre à l'animal dans un bâtiment, il faut respecter la surface d'herbe par animal, qu'en conventionnel on est un peu plus souple. Tout ce qui est alimentation, il faut y faire très attention, il faut éviter tout ce qui est pesticides, il faut éviter tout ce qui est insecticides. Pendant une paire d'années c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, mais après ça coule de source, quoi.
Est-ce que pour vous, c'est un coût de revient supplémentaire, ça, d'être en bio? Est-ce que ça se retrouve sur la vente?
Quand c'est la bête pour l'abattoir, donc pour la viande, oui. Pour l'élevage, il n'y a pas de différence. Pour la viande, le problème, c'est que au niveau abattage, c'est le même système que le conventionnel. Au niveau qualité, c'est autre. Ça remet un peu du goût. Au niveau analyse de viande, on trouve quand même une amélioration de la qualité. Et obligatoirement, ça doit se ressentir sous le prix.
Est-ce que vous faites directement vos abattages ou c'est la personne à qui vous revendez qui gère l'abattage?
C'est la personne qui me rachète mes bêtes qui gère l'abattage avec le chevillard. Entre autres, Bigard, pour pas citer Charal aussi. Bigard, c'est 70% aujourd'hui de l'abattage français.
Vous avez jamais cherché à travailler avec des circuits courts, comme par exemple la halle paysanne ou d'autres circuits comme ça ?
J'ai pas plus cherché que ça parce que il faudrait avoir un plus gros roulement d'animaux. Et vu que je vends que pour l'élevage, je ne garde rien. Et toutes mes animaux, mes femelles, vaches âgées, donc 10 ans, je les vends directement pour l'abattoir parce que c'est de la vieille vache. Donc c'est mieux travailler, ça peut pas se vendre dans les petites boucheries d'ici. Il vaut mieux du bœuf, il vaut mieux de la génisse.
Vous avez aussi de la production laitière, puisque vous faites de l'élevage de veaux. Vous avez quand même aussi la double contrainte. De toute façon, le laitier, lui, le bio laitier, ça n'existe pas, si ?
Il y a des nouveaux éleveurs laitiers qui viennent de passer en conversion bio sur Charentonnet et sur Saint-Jean-de-Bournay. Eux, c'est vraiment pour la qualité du lait et le prix qui est beaucoup plus rémunérateur. Contrainte, on va dire qu'il y en a moins, du fait qu'il n'y a pas trop d'investissement à faire, mis à part de l'herbe. Plus de travail, ben oui, mais moins de dépenses.
Une petite question. Donc, quand vous êtes passé en bio, finalement, au niveau de vos prairies, de votre herbe, l'herbe avant qui venait de chez vous, elle n'était pas bio, elle avait un traitement tout à fait standard. Il a fallu un certain temps avant que la prairie devienne avec l'agrément bio.
Indirectement, j'ai toujours été un peu dans ce système de bio. J'ai jamais mis des produits chimiques dans mes prés. J'ai jamais traité chimiquement mes prés. Toutes les mauvaises herbes, j'ai jamais mis de produits chimiques, mis à part le broyeur. C'est pour ça que je me suis dit qu'en 2010, le petit changement que je vais avoir, c'est que dalle. J'y suis presque, pourquoi pas franchir le pas ? Je me suis entouré de bonnes personnes de la Chambre d'agriculture et j'ai franchi le pas et aujourd'hui, j'en suis content.
C'est bien. Vous avez d'autres choses à rajouter, non ?
J'ai fait un peu de céréales. C'est la production de d'orge pour nourrir les animaux. Production d'orge brassicole, donc c'est pour vous faire de la bière bio. Et puis des contrats de blé de force, ce qu'on appelle, c'est des blés améliorants en protéines pour les pains. Les pains qui sont vendus en bio.
Pour tout ce qui est céréales et autres, votre client, c'est la coopérative agricole dauphinoise ?
Oui, aujourd'hui, il n'y avait qu'eux qui pouvaient être acheteurs de mes céréales bio. Chez nous, il y a Chola s'y est lancé, mais doucement. Et les investissements chez lui, la clientèle, les bennes, enfin bon, c'était un peu différent, il avait peur. Et puis Bernard, lui, là, il voulait pas. Quand il a aperçu que Chola s'y est lancé doucement, eh ben, il s'est dit, moi, si je me lance pas, ça va pas aller. Donc il s'est lancé aussi. Donc aujourd'hui, tous les stockeurs qui sont dans le coin font du bio.
Si vous n'avez pas d'autre chose, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir accueilli, monsieur, madame. Notre visite de la commune de Four est maintenant terminée. Notre prochaine édition ira dans la nouvelle communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Nous allons découvrir Trèpes, village surprenant avec plein d'originalités.